Bonjour et bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Les transformer ou les diluer, comme le dit si bien Camille Griselin, fondatrice de l'hypnose sagesse. L'objectif n'est pas de les supprimer, mais de faire en sorte qu'elles prennent moins de place en ajoutant d'autres croyances. Nous sommes un tout, et les croyances ne sont limitantes que si elles prennent trop de place dans notre esprit. Nous questionnons également les croyances externes, soit les perceptions que nous avons du monde et des choses. C'est en ce sens que le podcast s'appelle « Destin flottant », puisque notre destin flotte, changeant en permanence en fonction de nos perceptions. Je suis Anaïs et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Je travaille aujourd'hui pour des projets humanitaires et environnementaux à l'étranger, ce qui ne cesse de bousculer mes propres croyances héritées de mon éducation occidentale. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques ou vos questionnements sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invité aujourd'hui est coach, accompagne les femmes débordées à se connecter à leur corps et à leur puissance féminine afin de créer une vie qui leur correspond. Grâce au corps, on agit sur le microcosme de notre vie, reflet du macrocosme universel. À la suite de deux burn-out, elle remet sa vie en question, autrefois axée sur le faire de l'énergie masculine, et fait place à son énergie féminine, non entendue jusqu'alors. Bonjour Caroline Sangès.
Bonjour Anaïs.
Alors j'aime bien commencer par connaître les perceptions du monde de mes invités, antérieures à leurs différentes prises de conscience. Donc étant plus jeune, Caroline, comment percevais-tu le monde ?
Wow, vaste question. J'ai grandi dans un milieu très privilégié au sens de l'environnement, puisque j'ai grandi en station de ski, et aussi très compétitif, parce que j'ai fait du sport du coup très jeune et du sport de compétition. Et je percevais le monde, je pense, à la fois comme un espace de curiosité, parce que j'ai toujours été très attirée par le voyage et ce qui se passait ailleurs. On m'a transmis ça très jeune. Et aussi un lieu où il fallait vraiment faire sa place, en fait. Quelque chose d'assez compétitif et d'assez, entre guillemets, menaçant, même si c'était pas vraiment l'énergie, parce que j'ai jamais été en danger, mais c'était plus, voilà, il fallait vraiment jouer des coudes, en fait, pour pouvoir faire sa place. Donc, je pense que c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Et aussi avec la perception que ça m'a été donné par mon enfance et mon contexte familial, mais un peu la perception qu'on pouvait compter que sur soi.
Et quelles Donc étaient tes valeurs, justement, par rapport à ce milieu-là ?
Ben, j'ai très vite eu la sensation que les adultes ne pouvaient pas grand-chose pour moi, qu'il allait falloir se débrouiller. parce que j'ai un contexte familial qui, même s'il était très loin d'être catastrophique, au regard de beaucoup de gens, n'était pas simple non plus. Et j'étais l'aînée, donc il a fallu que je prenne beaucoup de choses à bras-le-corps, entre guillemets. Et toujours un peu cette sensation que les adultes faisaient n'importe quoi, en fait. Qu'il y avait quelque chose qui était vraiment pas sain et déconnecté, et que du coup, on ne pouvait pas vraiment compter sur ces générations-là pour nous emmener dans la bonne direction, entre guillemets. Ça a toujours été quelque chose chez moi, une forme d'incompréhension par rapport au monde qui nous entoure, de dire « mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est quand même bizarre !» Donc,
il y avait quoi,
en termes de relationnel, par exemple, en termes de mode de communication, moi j'ai toujours été très sensible à ça, et du coup, de voir l'agressivité ou les schémas qui sont sous-jacents à la communication des gens. Quand on est un enfant et qu'on voit des adultes agir comme des enfants blessés, ça pose question, en fait, vraiment, sur sur la direction et ce cadre qui est censé être sécurisant et qui au final n'est pas du tout, parce qu'on se retrouve confronté à des gens qui ont fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, mais qui du coup sont pas des ancres stables et réconfortantes en fait. Donc du coup voilà, ça demande toujours d'être en hypervigilance. Voilà, donc c'est ça. Après, mes valeurs, au-delà de ça, j'ai toujours eu vraiment cette idée de créer son propre, sa propre route, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que une forme de rébellion par rapport au système, quand j'étais ado, j'aimais bien dire que de toute façon, c'est soit je devenais homme politique, soit je devenais terroriste. Il y avait vraiment quelque chose où j'étais tellement, voilà, tellement touchée intérieurement par l'injustice du monde et en même temps, voilà, la sensation qu'aussi on n'est pas obligé de suivre les chemins et qu'on peut faire différemment. Et ça, c'est par contre, c'est vraiment merci à mes parents qui m'ont toujours dit que j'avais le choix, en fait, de faire ce que je voulais et que je pouvais aller chercher tout ce que j'avais souhaité. J'ai beaucoup voyagé. Je dirais ce qui m'a été transmis enfant, c'est à la fois ce côté un peu compétitif, une forme d'insécurité, mais en même temps une ouverture gigantesque au monde, en fait, et au possible. Donc ça crée un mélange. Un mélange.
Et vers quel métier tu t'es dirigée au début ?
Alors, quand j'étais adolescente, rapidement, j'étais plutôt bonne élève en fait, et on m'a orientée vers des filières un peu entre guillemets prestigieuses. Et je devais rentrer en école de commerce. Et là, clairement, il y a eu un, par rapport à la thématique de ton podcast, tu vois, ça a été un grand déclic où en fait, je me suis retrouvée dans ces sélections assez drastiques à Lyon avec plein de gens pour rentrer dans cette école de commerce qui était hyper cotée et tout. Et en fait, je regardais les gens autour de moi et je me disais, mais c'est absolument pas ce que je veux faire et je veux pas être là. Et c'est pas pour moi, en fait. Je sentais la... comme si ça allait être une prison, en fait. Je le percevais. Et du coup, au grand désespoir de mes parents, j'ai été prise et je ne suis pas allée. J'ai refusé. En plus, pour aller faire barmaid en boîte de nuit en station, ce qui n'était pas exactement la vision de mes parents pour moi à l'époque. Mais sans regret, ça m'a donné d'autres expériences, mais ça a été vraiment un moment où j'ai bifurqué, en fait. J'étais déjà un peu rebelle, mais alors j'ai dit non, stop, en fait. Cette vie-là, c'est pas la mienne.
Et tu as des frères et sœurs. Comment tu te positionnais alors dans la fratrie? Parce que tu as dit que tu étais l'aînée.
Ouais, absolument.
Parce que, et souvent, enfin, on dit souvent que les aînés... se module plus aux attentes des parents, alors que les suivants, beaucoup moins. Alors que toi, dès le début, en fait, même en étant l'aîné, tu dis non, tant pis, je vais trahir mes parents.
Ouais,
je vais trahir leurs attentes.
Ouais, j'étais pas un aîné consensuel, clairement pas. J'ai deux frères. En fait, normalement, on était quatre. J'ai un frère qui est décédé il y a un certain nombre d'années. Du coup, maintenant, on est trois. Et je suis l'aîné, effectivement, de pas mal d'années en plus, parce que ma sœur a 6 ans de moins que moi. Et j'ai toujours été un peu celle qui va remettre le système en question, beaucoup plus que mes frères et sœurs au final. Parce qu'en fait, je crois qu'ils sont arrivés dans un milieu assez confortable où j'avais déjà fait le ménage. Et aussi en défenseur de mes frères et sœurs. Donc j'avais une position assez frontale avec mes parents pour le coup. Donc non, moi je suis arrivée en aînée. Le mot qui me vient là, c'est dévastatrice en fait, mais c'était vraiment ça. C'était. Voilà, je leur ai tout fait et en même temps, j'ai fait en sorte que, voilà, il n'y ait pas de. En fait, le peu qui restait d'une forme d'éducation consensuelle bourgeoise de mes parents, je leur ai fait exploser au visage avant que mes frères et sœurs aient le subir.
D'accord. Ah oui, donc tu avais déjà un peu ce rôle de faire bousculer des croyances déjà très jeunes. Alors, tu viens de dire que tu as un frère décédé.
Ouais.
Est-ce qu'on peut en parler ou...
Absolument, oui.
Ouais. Ouais. Comment c'est arrivé et qu'est-ce que ça a pu changer en toi?
Alors, c'est une longue histoire parce que mon frère, en fait, est né microcéphale. Donc, en fait, c'est une malformation de naissance. Il avait un tout petit cerveau, en fait. Il avait juste les parties je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, les parties qui dirigent tout le système vital. Qui fonctionnait, mais par contre toutes les parties, le lobe frontal, toutes ces parties qui sont liées à la communication, à d'autres formes d'évolution humaine, n'étaient pas développées chez lui, liées à une C'était des jumeaux, en fait. Il y en a un qui est décédé, ça a arrêté le développement de l'autre. Donc, du coup, il est né très handicapé. Il a été chez nous pendant quelques années. Ça a été très compliqué. Du coup, après, il a été placé en pouponnière. Et moi, j'ai fait tout un chemin là-dessus, dans le sens où je pense que c'est mon frère qui m'a amené au développement personnel. Parce que ça a fait exploser ma famille à plein niveau, parce qu'un enfant très handicapé, c'est émotionnellement très lourd, et dans un couple, ça vient... si le couple n'est pas solide, en fait, c'est très compliqué. Et du coup, on s'est retrouvés, moi et ma sœur, à devoir stabiliser une situation qui était compliquée et lourde. Et j'ai, en fait, comme je n'avais pas forcément de soutien autour de moi, j'ai été chercher mes solutions, donc c'est moi qui, à 14 ans, suis pris rendez-vous chez un psy, en fait, volontairement, parce que je sentais que j'en avais besoin. Et puis, il y a eu psy, puis il y a eu constellation familiale. Et donc, c'est vraiment mon frère qui m'a amené là-dedans, de par qui il était, du coup, par notre discussion. Et moi, j'ai fait mon chemin, hein, par rapport à ça, parce que il m'a aussi, je pense, en fait, si tu veux, sa naissance a été extrêmement complexe, il a été beaucoup réanimé, il y a eu beaucoup d'acharnement thérapeutique, et puis même après, ça a été très compliqué avec le milieu médical. Et en fait, moi, j'avais une énorme colère sur le médical, et j'ai été faire une formation d'infirmière plus tard. Et du coup, dans le cadre de ma formation, j'ai fait des stages dans la pouponnière et l'hôpital de mon frère, donc j'ai vraiment l'occasion de passer du temps avec lui tous les jours et de vivre ça très différemment. Et en fait, pour moi, c'est un de mes anges gardiens, clairement, et j'entretiens toujours une relation avec lui aujourd'hui. Donc je dirais que de ma famille, je suis peut-être celle qui a eu le plus de liens et en même temps qui a eu le plus de gratitude face à cette situation, en fait, qui a été très dure à plein de niveaux. Mais en fait, moi, je sais à quel point ça m'a ouverte et à quel point il m'a guidée vers encore plus d'ouverture à l'autre, encore plus de tolérance, d'empathie et d'avoir toujours ce truc de me dire ok, peut-être que là, la personne que j'ai en face, elle est peu importe le comportement, mais en fait, on ne connaît pas la vie des gens. Donc, du coup, c'est important de toujours prendre un peu de recul et pas de mettre les gens dans des cases. Et moi, ça m'a beaucoup apporté ça aussi.
Oui, on en parlait en hors antenne où tu me disais qu'avant, tu avais plutôt cette énergie assez dominatrice ou même peu compréhensive de l'autre. Mmh. Donc, en fait, dès ta jeunesse, c'était en train de se modifier à ce moment-là de par l'expérience avec ton frère.
Alors, j'ai la sensation, là, tu vois, d'en parler avec toi et d'avoir un peu cette vision que, en fait, je suis arrivée avec quelque part une forme d'ego très fort et très... voilà, je te mets, c'est comme ça. Et en fait, que la vie m'a très vite amenée dans des trucs où il a fallu que je module, que je sois à l'écoute de l'autre et que je comprenne qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, parce que ça génère trop de souffrance. Et moi, je suis scorpion, et j'étais un vrai scorpion quand j'étais jeune, avec la capacité empathique extrêmement développée, mais aussi cette capacité à aller piquer là où ça fait mal. Donc le négatif du scorpion, parce qu'il y a plein de positifs. Donc du coup, et je pense que la vie m'a vraiment amenée dans ce très très tôt dans l'empathie, l'écoute, la perception de l'autre et l'ouverture, en fait.
Et toi-même, comment tu te percevais durant ta jeunesse ?
J'ai assez peu de souvenirs de mon enfance à ce niveau-là, à part que quand je regarde les photos, j'ai toujours l'impression d'avoir une adulte dans un corps d'enfant. C'est très curieux le regard que je pouvais poser sur les choses, et je pense qu'il y avait un peu de ça quand j'étais plus jeune, parce que j'étais a priori une enfant hyper facile, j'allais partout, mais j'étais toujours très à l'écoute et très en train d'analyser ce qui se passait. Plus tard, à l'adolescence, concrètement, j'étais bien dans une forme de rébellion, en fait. Il y avait vraiment quelque chose que je porte toujours aujourd'hui, une forme d'incompréhension, en fait, face au monde qui nous entoure. Et du coup, même si aujourd'hui j'y ai trouvé du sens et j'y apporte ma pierre à l'édifice d'une manière complètement différente, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime au fond, en fait. Ça a été toujours ce truc de c'est quoi ma mission, c'est que je suis là pour, c'est obligé, en fait, parce que c'est tellement, entre guillemets, excuse le bordel, qu'il faut faire des choses. Donc ça m'a toujours vraiment porté, ça a toujours été dans mes préoccupations, j'ai envie de dire. Et du coup, là, d'avoir trouvé des vecteurs où je sais que ce que j'apporte a un impact façon poupée russe sur les gens, puis leur environnement, puis leur manière d'être, et ainsi de suite. Ça m'apaise, en fait, aussi. J'ai l'impression de vrai, dans un sens. C'est hyper important.
Et oui, parce qu'à la base, tu me disais que tu avais construit des projets, des entreprises, tu as été infirmière à l'étranger également. Et tu me disais hors antenne que tu avais fait 2 burn-out qui ont remis beaucoup de choses en place. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'avant-après de ces burn-out, qu'est-ce que ça a fait bouger en toi ?
Le premier m'a sorti de ma condition d'infirmière où je pense que j'avais fait ce que j'avais à faire, concrètement. Ça m'a beaucoup apporté en termes de... Déjà, c'est un métier intéressant. En plus, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai eu l'occasion d'être en contact avec plein de choses. Mais à la fin, quand j'ai fait le burn-out, j'étais dans quelque chose qui était devenu routinier et en perte de sens. Puis un gros, gros conflit avec le monde médical occidental, en fait. Donc, du coup, ça me mettait vraiment en porte-à-faux. Donc, je pense que le premier burn-out vient de là, de cette espèce de dissociation entre mes valeurs, mes croyances et ce que je faisais tous les jours. Donc ça m'a permis de me recentrer sur en fait il faut que mon métier reflète mes valeurs et mon engagement. En fait, je peux pas. Y a des gens qui font ça très bien et qui vont avoir un travail et qui vont œuvrer à côté. Et c'est tout à fait respectable. Moi je sais que là où je passe la majorité de mes heures, il faut que je sente que ça a une utilité parce que sinon je suis en perte de sens et quand je suis en perte de sens, je suis insupportable. Concrètement. Donc voilà. Et après, donc, j'ai créé une société qui, pour le coup, avait beaucoup de sens pour moi, qui était une société de traiteurs événementiels bio-vegan, avec un food truck. C'était une des premières dans le sud à l'époque. C'était assez novateur. Et qui a super bien marché. Et vraiment, je portais en moi, parce qu'à l'époque, j'avais ma formation en naturopathie. J'étais très, très bercée dans l'alimentation et l'intérêt et l'importance de l'alimentation dans la santé et dans l'écologie. Et du coup, je m'étais investie d'une mission où, en fait, je voulais promouvoir le véganisme pour des problématiques principalement écologiques, de préservation des terres et des ressources, et aussi l'alimentation saine comme étant, pour moi, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée vers soi. Maintenant, je le perçois comme ça, je le comprends mieux, mais c'était vraiment, quand on commence à prendre soin de son corps, à être en lien avec son corps et à le nourrir avec amour, en fait, il y a des choses qui se passent et après, on évolue sur un autre chemin. Donc, je m'étais vraiment investie de cette mission-là à 200% et je suis très feu dans mon approche. Donc, du coup, je travaillais 70 heures par semaine, voilà. Et il y a eu pas mal de choses où, en fait, dans le cadre d'une entreprise qui grossit, j'étais à l'époque très branchée à Startup Nation, on va faire des... Bah, ouvrir 1, 2, 3 magasins, c'est parti. Et en fait, il y a eu une déconnexion de la valeur profonde qui sous-tendait à la société. C'est-à-dire que, en fait, j'étais vraiment investie du projet, mais dans le cadre d'un développement économique un peu mené tambour battant pour le coup. Il y a vraiment eu cette idée de tu fais des choix qui sont pas forcément complètement alignés avec ton besoin de départ. Tu vas transiger, tu vas accepter des trucs alors que tu sais que c'est pas totalement juste parce que y a des gens qui veulent investir, il y a des choses qui se passent et tout. Et en fait, on a l'impression d'être obligé. Et en fait, petit à petit, j'ai perdu, encore une fois, le sens. Et en fait, mon corps m'a tout simplement juste remis dans l'axe. C'était plus possible, quoi. Donc en fait, moi, vraiment, les burn-out, c'est très long. Le deuxième, j'ai mis 3 ans à m'en remettre, c'est vraiment très long, donc il faut vraiment percevoir ça comme c'est pas j'ai un burn-out, j'en prends conscience, je prends 3 vitamines et je repars en fait. Concrètement, on a usé nos réserves en profondeur et ça demande une vraie introspection et des vrais moments de pause et vraiment de la bienveillance envers soi, parce que dans un monde productif, c'est pas facile de pas être capable de se concentrer plus qu'une heure. Mais du coup ça m'a vraiment permis de faire le virage complet cette fois-ci, pas juste ok je veux travailler dans quelque chose qui ait du sens, mais en fait aujourd'hui il faut que ma vie en fait soit en synchronisme avec mon travail et qu'il y ait quelque chose qui soit juste à tout niveau, c'est-à-dire que j'ai une famille avec des enfants, j'ai un couple. Il y a moi qui a aussi ce besoin d'espace. Il y a mon œuvre professionnelle. Et en fait, tout ça doit être en synergie. C'est de la permaculture, en fait. Voilà. Et du coup, c'est vraiment ça que m'a apporté le dernier burn-out, c'est déjà de plus pouvoir, donc c'était réglé. Ensuite, d'avoir vraiment, pour le coup, 2 ans où ça a été, entre guillemets, nuit noire de l'âme, je mets des guillemets parce que je fais du développement personnel et de la spiritualité depuis longtemps et c'est pas mon premier. donc je savais un peu ce qui se passait, j'étais pas perdu, je savais qu'il y avait une direction, qu'il y avait un après, mais quelque part c'est extrêmement difficile à vivre quand même quand on sait pas où on va, le pourquoi, le comment et qu'on a l'impression de flotter en fait, parce que hormonalement il se passe quand même beaucoup de choses sur un burn-out et concrètement on fatigue le maître. Le thyroïde, c'est le chef d'orchestre de notre corps à plein de niveaux. Et en fait, quand on l'épuise, il se passe tout un tas de choses au niveau physiologique. Et on a beau avoir cette envie, cette volonté qui revient, en fait, le corps ne suit pas du tout. Et donc, il y a vraiment, c'est hyper long. Et ça demande vraiment beaucoup de bienveillance de revenir et de reconstruire. Et moi, c'est là-dessus que j'ai reconstruit ma nouvelle entreprise. Sur cette base de... Ok, c'est pas juste apporter ta pièce à l'édifice du monde, en fait, c'est notre objectif sur Terre, c'est avant tout d'être bien et d'être heureux et de partager au-delà de vouloir créer et de vouloir amener autre chose façon colibri, c'est aussi avant tout de générer ce bien-être en toi, dans ta vie de tous les jours et avec ton entourage. Et du coup, c'est vraiment un fondement. Et ça a été le fondement de la création de Shakti Ways et c'est pour ça que c'est quelque chose que je prends... petit à petit au pas, et je respecte vachement les moments où je sens que je suis trop fatiguée pour faire, et c'est vraiment quelque chose que je transmets aussi à mes clientes, parce que là, ça vient vraiment résonner avec, on est des femmes, on n'est pas faites pour fonctionner H24, comme on nous le montre, hormonalement, on ne fonctionne pas de manière linéaire, et en fait, du coup, on s'épuise. Le burn-out, ça touche 80% de femmes, en fait, mais c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, le monde dans lequel on vit est un monde patriarcal qui est calqué sur le rythme hormonal des hommes. Et nous, on est des femmes et on a un cycle, entre guillemets, de 28 jours, plus ou moins, mais qui correspond à un cycle hormonal avec des pics d'énergie, des moins d'énergie et des fluctuations qui sont absolument fantastiques quand on apprend à s'en servir. Mais quand nous, on essaye de fonctionner sur un principe linéaire du lundi au vendredi, ça marche pas, en fait. Et on s'épuise. Et on tue notre cycle hormonal et c'est pour ça que il y a les burn-out, mais il y a toutes les problématiques gynéco et qui vont avec, où c'est pareil, ça touche principalement les femmes, parce qu'en fait, le monde dans lequel on vit n'est pas fait pour nous.
Et aujourd'hui, on a beaucoup de cas d'endométriose, notamment, de plus en plus.
Absolument, l'endométriose, c'est clairement... Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je connais un petit peu, et il y a vraiment ce paramètre d'être envahi, en fait, de plus être soi, et de se faire complètement dévorer, en fait, de l'intérieur. Il y a quelque chose qui est... Et du coup, c'est hyper important de prendre conscience que c'est avant tout notre mode de vie qui amène à ce genre de choses, en fait. Et que c'est même pas, on n'est pas responsable en tant que soi, genre je devrais faire différemment, c'est que le monde autour de nous est construit pour les hommes.
C'est ça, et justement, c'est une question que j'allais te poser. Alors, comment on aide les femmes, finalement, à s'adapter? Parce que malheureusement, le monde est encore tel qu'il est. On travaille encore du lundi au vendredi pour la plupart d'entre nous, ou alors en horaire décalé. Mais en tout cas, c'est en France, du moins en Occident, on a encore du mal à respecter le rythme des femmes. Alors comment toi tu orientes les femmes de manière à ce qu'elles respectent plus leur fonctionnement et à ce qu'elles s'écoutent plus?
Alors il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est apprendre à se connaître. Le premier point, c'est ça, c'est apprendre à connaître son corps. Par exemple, à savoir que notre cycle et n'est pas... En fait, souvent à l'école, on nous dit, OK, bah, il y a la menstruation et il y a l'ovulation. Et en fait, on a 4 phases dans un cycle menstruel. On n'en a pas 2. Et en fait, ces 4 phases ont des balances hormonales et cérébrales différentes, d'un point de vue juste même physiologique. Où, en fait, vous avez la première phase qui est en fait la menstruation, en fait, c'est la période des règles. Souvent, c'est rigolo parce que on a une vision assez erronée du truc où ce serait la fin. Et en fait, il faut bien comprendre que les règles, c'est le début, c'est le moment où on a moins d'énergie. Mais en fait, c'est une invitation à rentrer à l'intérieur et à écouter. Donc, c'est vraiment une période où les femmes dans les cultures traditionnelles, on en parlait avant, Elle s'était très développée, en fait, cette idée de les femmes se regroupent pendant leurs règles, c'est des tentes rouges, c'est toutes ces choses-là. Et en fait, c'est parce que on a une capacité intuitive et de perception qui est très différente. Et si on prend ce temps de se connecter à soi, en fait, on va recevoir des infos. C'est la période où on va planter la graine, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant de se connecter, de ralentir, d'éviter les interactions sociales, d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus dans la présence, beaucoup moins dans la consommation de contenu extérieur aussi, plus dans la connexion, votre créativité, peindre, dessiner, peu importe le vecteur, mais cuisiner. Mais donc, c'est vraiment, voilà, la première phase, c'est ça. La deuxième phase, ça va être le prémenstruel, donc la phase folliculaire. Et en fait, là où vous avez vraiment cette énergie qui remonte et on a un pic d'énergie à ce moment-là, c'est la phase la plus masculine du cycle. C'est là où on va pouvoir aller vers l'extérieur, on va créer du projet, on va structurer, on va mettre à plat. En fait, on va faire pousser la graine qu'on a plantée. Donc, en fait, vraiment, c'est un moment où il ne faut pas hésiter à structurer, à rencontrer des gens, à faire, à poser des cadres et à avancer. On a beaucoup plus d'énergie. C'est un moment où, typiquement, on va pouvoir travailler beaucoup plus et sur des durées beaucoup plus grandes parce que notre corps, il est disponible à ça. Après, vous avez la phase... Là, je passe vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a la phase ovulatoire où, en fait, là, c'est l'archétype de la mère et c'est vraiment, on va aller... on brille. On est dans la communication. C'est là où on va parler le plus. Je réalise que je suis en plein dedans, là. Tu vois, je fais des grands gestes comme ça. on va vraiment être dans ce lien à l'autre. Et il y a aussi le côté accueillir, faire des repas, communiquer. Et au-delà de ça aussi, hormonalement parlant, ça, c'est hyper intéressant, on déclenche des phéromones. En fait, donc typiquement, on est magnétique d'un point de vue énergétique et physiologique pendant cette phase ovulatoire. Donc typiquement, si vous avez un rendez-vous à prendre avec votre boss pour demander une augmentation, c'est là, quoi. Si vous avez une présentation à faire, c'est là, quoi. Et en fait, c'est vraiment de comprendre que là, il y a un truc qui se joue, on est vraiment là-dedans. Après, on a la phase prémenstruelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, elle se sépare en deux. Mais globalement, là, on est dans la phase sorcière, donc on est vraiment dans une phase de tri. Donc c'est là où si vous voulez ranger votre maison, trier votre bureau, mettre en place, structurer, voir ce qui marche pas, faire le ménage dans vos relations, tout ça, en fait vous avez l'énergie pour. Alors souvent, celle-là, elle est assez mal perçue, c'est là où il y a le syndrome prémenstruel, parce que les femmes, en général, alors il y a deux choses. Déjà, on a un syndrome prémenstruel fort, souvent quand on ne s'est pas respecté sur le reste du cycle. Donc en fait, on arrive là, et là, vous, contrairement, votre sorcière vous dit « Non mais alors là, c'est pas possible, on ne peut pas arriver là et dans cet état-là. » Donc ça va être compliqué émotionnellement parce que vous allez décharger, parce qu'elle est là pour ça, pour vous permettre de décharger. Donc si ça fait 3 semaines que vous êtes à contre-courant, vous allez péter des plombs à ce moment-là, parce qu'en fait elle est là pour ça, c'est son job. Par contre, si vous êtes respecté sur le reste du cycle, en général c'est hyper positif, vous pouvez trier, faire le ménage, vous y voyez plus clair dans ce qui vous entoure, et vraiment c'est un moment de bilan qui est hyper efficace. Et après, le cycle reprend. Donc, on repart sur... Donc, c'est vraiment... En fait, quand on comprend ça, on comprend que la femme, déjà, elle a des super pouvoirs parce que, en fait, chaque phase a son propre intérêt. Et qu'en plus, on est... la femme est complètement incarnée dans ce cycle de mort et de renaissance permanent, de création de projet. Et du coup, j'ai complètement oublié le début de ta question.
Non, c'est je te demandais comment tu aidais les femmes en fait à justement à se reconnecter et à s'écouter dans un monde qui ne permet pas ça. Et oui, tu es en train de montrer que au-delà de je sais pas moi, ne pas aller au travail quand on a ses règles, on peut peut-être aller au travail, mais essayer dans notre vie avant et après le travail de ménager justement c'est un temps beaucoup plus introspectif. Alors, il y aurait des médecins qui disent qu'on aurait 2 ovulations par mois et non pas une. Alors, c'est une idée qui court un petit peu depuis quelques années. Et notamment, on a beaucoup de femmes qui essayent de ne pas prendre de contraception. Ah oui, parce que, alors, j'allais en venir justement à la contraception. On connaît beaucoup de femmes qui prennent une contraception justement pour ne pas avoir les règles. Le danger avec ces pilules-là, c'est qu'on peut aussi vite se déconnecter de soi-même et de son cycle. Le fait est qu'il y a beaucoup de femmes qui essayent justement d'éviter les enfants en regardant bien comment, à quelle période de l'ovulation on est, etc. Et pourtant, qui ont quand même des enfants. Tu vois, moi, j'ai des exemples d'amis qui sont tombées enceintes alors que ça faisait c'était le lendemain de leur règle, de la fin de leur règle, tu vois. C'est, c'est... Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce que tu viens de... Alors déjà, la double ovulation, je pense qu'il faut arrêter de faire rentrer les femmes dans des cases, en fait. C'est pas... Il n'y a pas... C'est le système hormonal féminin est un système très complexe qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas parfaitement. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et typiquement, il peut y avoir des mois où vous aurez plusieurs ovulations et des mois où vous n'en aurez pas plusieurs, en fait. C'est pas quelque chose d'acquis, genre toi t'as une double ovulation et ce sera jusqu'à la fin de tes jours. C'est vraiment, on est dans un corps cyclique qui est en lien permanent avec le milieu extérieur. Donc il suffit que quelle femme n'a pas expérimenté le « je crois que je suis enceinte, j'ai peur » et du coup mes règles viennent pas. Et du jour où je fais un test et que je aperçois que je suis pas enceinte, j'ai mes règles dans 2 heures après, quoi. Et ça, typiquement, ça vous montre à quel point votre corps et votre physiologie est en lien avec l'énergie extérieure et le niveau de stress et votre mode de vie. Donc, effectivement, la double ovulation, elle est réelle, ça arrive. Pour le coup, déjà, ça arrive souvent chez les plus jeunes. Pas forcément après 40 ans, c'est beaucoup plus rare, en fait. Parce que votre corps, il prend un rythme différent. Après, effectivement, les techniques de lien avec ton corps au niveau de la fertilité et du contrôle des naissances demandent une vraie connaissance de ton corps parce que et un lien puissant, c'est-à-dire que, à mon sens, utiliser une application est pas du tout pertinent parce qu'en fait, c'est des algorithmes qu'on vous propose, c'est des moyennes en fait. Et du coup, c'est pas forcément en lien avec votre corps. Donc, faut vraiment. Ça donne une idée de base. Si on veut, typiquement, c'est très bien si on veut apprendre à connaître son cycle et apprendre à connaître son fonctionnement. Par contre, si vous faites reposer votre, votre contraception là-dessus, c'est un peu léger quand même. Parce qu'en fait, il faut vraiment utiliser toutes les techniques de. Il y a la symptothermie avec la température, il y a à apprendre à connaître ta glaire cervicale. Donc ça, je sais, tu connais pas ?
Non.
Alors la symptothermie, c'est
les pertes. Je connais les pertes vaginales.
Ouais.
Mais ça doit être ça.
Alors les pertes vaginales, c'est plus vraiment la glaire, ce qu'on appelle la glaire cervicale. Donc c'est vraiment aller donc regarder les pertes que t'as suivant les jours. Des pertes autour d'une ovulation vont être beaucoup plus denses, beaucoup moins liquides. Et en fait, elles, tout simplement parce que ça permet aux spermatozoïdes de circuler plus facilement. Et en fait, c'est donc apprendre à connaître ça et apprendre à explorer son corps. Par exemple, un col de l'utérus au moment de l'ovulation va être allongé, donc il va descendre plus bas dans votre vagin. Et il va s'ouvrir, en fait, on le perçoit. Et c'est vraiment accepter que si je veux passer par là, il va falloir rencontrer mon corps en profondeur. Il va falloir mettre mes doigts dans mon vagin pour aller explorer ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Il va falloir que je regarde tous les jours. Et c'est aussi créer ce lien qui fait que petit à petit, ça devient plus intuitif. Petit à petit, on comprend mieux, en fait, ce qui se passe. Mais concrètement, il faut aussi se dire que si on part sur ce chemin-là, il va falloir se donner un certain nombre de mois. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout si on a été sous pilule avant, parce que le corps a besoin de temps pour se réguler. Et que dans ce cadre-là, eh ben, c'est préservatif pendant un certain temps, jusqu'à ce que je sois vraiment capable de sentir mon corps. C'est pas aussi simple qu'une application avec... parce que l'application, elle part sur une base de 28 jours avec machin, nanana, mais c'est peut-être pas votre cas. Et peut-être que ce mois-là, vous êtes hyper stressé et que du coup, bah, votre ovulation, elle va arriver 3 jours après vos règles parce que votre corps, il est en mode « ça va pas, là, faut qu'on se dépêche ». Ou voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons. Donc c'est vraiment, pour moi, l'application, c'est hyper intéressant. Moi, j'utilise avec les femmes sur « apprends à connaître ton cycle ». Donc, tu regardes, le fait de noter tes règles régulièrement, ça te permet de voir quand est-ce que ça arrive. Tu peux, en général, tu peux mettre des petites appréciations, genre là, je suis fatiguée, genre j'ai plus d'énergie. Et ça te permet de voir comment toi, tu fonctionnes par rapport à ces différentes phases dont j'ai parlé avant. Mais après, pour ce qui est de la contraception, moi, je suis extrêmement prudente là-dessus. J'ai fait 2 IVG dans ma vie. Du coup, je suis aussi très empathique avec ce que ça représente. C'est un tout autre sujet, mais... ce qui s'est passé récemment aux États-Unis m'a touché dans mes tripes. Donc parce que même si je prône le tout naturel et la connaissance de son corps, c'est important d'avoir cette possibilité-là aussi.
Bien sûr. C'est une charge mentale qu'on a en plus. Ouais.
C'est ça, c'est énorme. Et en plus, c'est tellement... Bon, là, je vais dériver, donc je vais m'arrêter parce que là, je vais partir sur tout le sujet de l'avortement. Et mon Dieu, j'ai des choses à faire. Mais pour revenir à notre sujet, voilà, c'est vraiment un chemin. On est tellement habitué à cette notion de « bon, bah, je vais mes règles, je ne veux pas tomber enceinte, je fais quoi ? Bah, je prends une pilule. » Prends un petit cachet et puis basta. Non, là, ce que ça demande, c'est concrètement de revenir à ton corps, d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à voir ce qui se passe. Et en fait, petit à petit, moi, je le vois des femmes autour de moi. Moi, ça m'arrive, mais pas tous les mois. Mais globalement, j'ai des femmes autour de moi qui sentent leur ovulation. Elles sentent quand ça arrive, en fait. Moi, ça me fait un petit pic. Je suis capable de dire de quel côté. Mais du coup, plus on est en lien avec son corps, plus on est connecté avec son corps, qui est tout le fond de mon travail, plus, en fait... la contraception va devenir entre guillemets, un produit dérivé de cette connexion-là, en fait. Mais pour moi, par contre, c'est vraiment, là, je mets des grosses loupiottes, attention, attention, si vous avez envie d'aller là-dedans, ça demande un chemin, en fait. Ça demande vraiment de prendre le temps, et dans ce cadre-là, mettez des préservatifs, parce que du coup, ça vous permet d'être plus libre et de pouvoir expérimenter... tranquillement, d'apprendre à connaître votre corps tranquillement, plutôt que de vous retrouver au bout de 2 mois dans une situation où vous croyez que vous êtes enceinte, où vous l'êtes vraiment, et ça vous met en stress total, et du coup, ça fout encore plus en l'air votre système hormonal, parce qu'une pilule du lendemain, eh ben, ça reste pas terrible, sans vouloir culpabiliser personne, hein, mais vraiment, voilà, c'est hormonalement, c'est lourd, donc votre corps, il va mettre du temps à s'en remettre, donc vous allez de nouveau avoir un cycle irrégulier pendant un certain temps, donc du coup, vous voyez, c'est voilà, faut mieux prendre des préservatifs et être tranquille et expérimenter sur plusieurs mois en se donnant du temps, que de vouloir se mettre bien en tête, ok, à partir du mois prochain, je mets plus de protection, et je sais, mais parce qu'on n'est pas éduqué là-dedans. On ne nous a pas appris dès l'enfance à connaître notre cycle. Moi, je vois, j'ai une fille de 11 ans qui n'est pas encore réglée, mais c'est des discussions qu'on a régulièrement, en fait, parce que je veux qu'elle grandisse avec cette connaissance de son corps, cette perception de sa souveraineté intérieure, et en fait, la capacité à ne pas dépendre du milieu médical extérieur pour elle, en fait. Voilà. Moi, c'est un de mes rêves, en fait, de vraiment transmettre ces connaissances aux plus jeunes, parce que je pense que c'est tellement puissant, en fait, pour les femmes et les jeunes filles en devenir. Parce qu'en fait, on grandit avec cette impression d'être cassé, d'être pas assez... Il y a un truc qui va pas parce qu'on a nos règles, et c'est tellement de moins en moins, mais ça reste toujours un peu tabou, mal perçu dans la société. Et du coup, on a l'impression d'être des hommes avec un handicap, quoi. Et en fait, alors qu'on a dans notre corps une machinerie incroyable, c'est vraiment incroyable comment ça fonctionne, la puissance que ça a et dans notre vie de tous les jours. Et en fait, ce qu'on rapporte à créer des enfants, ce qui est une réalité, ce qui est déjà foncièrement assez magique quand même. Mais en fait, vous pouvez complètement utiliser cette énergie-là pour connecter avec votre créativité et vos projets à vous. Vous pouvez faire naître des idées et des projets de la même manière que vous faites naître des enfants. Et quand vous rentrez dans le contact avec ça, vous passez du statut d'homme avec un handicap à en fait, je suis une prêtresse sorcière, genre je peux faire absolument tout ce que je veux, et la puissance qui peut se dégager de ça, et du coup la souveraineté qui en découle. Cet alignement à vous dire, mais en fait, je suis et j'ai déjà tellement à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai plus besoin de courir à l'extérieur pour de la validation, faire des heures sup et machin, et être toujours en demande de validation extérieure, parce qu'en fait, la validation, elle vient de dedans. Il n'y a plus besoin.
Oui, alors justement, là, on dérive vers 2 questions que j'allais te poser. Donc, la première, c'est de quelles sont, selon toi, les croyances principales que tu remarques chez les femmes ? Et ensuite, est-ce qu'on retrouve, quel est le lien entre conscience de ses désirs et besoins en sexualité, en sensualité et transformation de notre vie ? Bon, on va revenir sur la première. Donc, quelles sont les principales croyances que tu remarques chez les femmes ? Donc, tu viens d'en dire une, je ne suis pas assez.
Bah, pour moi, c'est celle-là, c'est la plus prégnante. Parce qu'en fait, quand on creuse derrière, que ce soit... j'ai pas confiance en moi, ou j'ai envie de le faire mais j'y arrive pas, ou même la culpabilité, la culpabilité qui est une émotion tellement féminine. Je ne suis pas persuadée que les hommes, ils la connaissent, mais ils ne la connaissent pas aussi profondément que nous, quoi. Et La culpabilité, typiquement, c'est « je suis pas assez bien, en fait. J'ai pas fait assez bien, j'ai pas... » Voilà. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de partout et qui, pour moi, est presque un des fondements des... du modèle patriarcal dans lequel on vit. C'est on nous a fait grandir avec cette notion qu'on était des demi-hommes, en fait.
Oui. Et d'où ça vient, ça, selon toi ?
Alors, je pense qu'il y a des millénaires derrière. Oui. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a 60 ans, on n'avait pas beaucoup de droits, et encore avant, on en avait encore moins, et on a toujours été diabolisés. Bah, à partir du moment où il y a la religion catholique, on a été vraiment extrêmement diabolisés, minimisés, utilisés pour notre hystérus comme des mères porteuses, en fait. Et donc, il y a vraiment cette notion-là. Mais au-delà de ça, même dans notre monde contemporain, j'ai été très bercée quand j'ai eu mes enfants dans tout ce qui était éducation alternative et éducation bienveillante et tout. Et on s'aperçoit que d'un point de vue sociétal, même dès l'enfance, on sait que par exemple, une mère n'allait pas son fils comme elle allait sa fille. Même c'est inconscient en fait, il n'y a rien de méchant là-dedans, c'est juste qu'on se transmet des choses de génération en génération. Et typiquement, les garçons sont très valorisés sur le faire. Sur la mise en action, sur on va faire des compliments à un garçon sur ce qu'il fait et on va faire des compliments à une fille sur ce qu'elle est. Mais ce qu'elle est, c'est des caractéristiques bien spécifiques. Elle est gentille, elle est douce, elle est des caractéristiques qu'on amène, qu'on prête au féminin. Sauf qu'en fait, une femme, c'est bien plus que ça. Et du coup, la femme, elle grandit avec cette impression d'être tordue parce qu'on attend un truc d'elle qu'elle n'émane pas, en fait, qui est qu'une seule partie de sa personnalité. Et qu'une femme qui va exprimer la colère ou certains traits de caractère qui sont considérés comme masculins dans notre société, elle va être, entre guillemets, réprimée pour ça. Une petite fille. Moi, je le vois avec ma fille qui est très comment dire, elle est véhémente dans ses demandes, en fait. Elle a besoin de faire bouger les choses. Là, récemment, on a posé une pétition à la mairie pour pas qu'ils coupent les arbres dans l'école, tu vois. C'est elle a 11 ans et c'est genre et en fait elle est souvent attaquée du coup autour parce que en fait on considère que elle est trop ou pas assez, en fait. C'est-à-dire qu'une femme, c'est compliqué pour une femme d'être juste bien. C'est soit je suis trop, tu fais trop de bruit, tu rigoles trop fort, tu parles trop, tu as trop d'envie, tu es trop bizarre et du coup, tu fais peur. Tu fais peur aux hommes. Faut que tu sois moins parce que sinon tu fais peur aux hommes. Ou alors t'es pas assez. Tu vois, t'es pas assez bien, t'es pas une assez bonne mère, tu travailles pas suffisamment, tu t'investis pas suffisamment. Ah bah si t'as pas de mec, c'est sans doute que t'es pas. Tu vois. Et en fait, c'est hyper compliqué pour une femme d'être juste bien, quoi. Il y a pas de, on nous élève pas là-dedans à être valorisée juste parce que par nos différences et qui on est. Donc en fait, je vois beaucoup de femmes qui sont là-dedans, qui sont dans je suis pas assez. Après, comme croyance limitante, on revient presque toujours à ça, en fait. Parce que je pourrais t'en citer plein, mais en fait, c'est juste des corollaires de celle-là.
De celle-ci. Et alors, comment on modifie ses croyances, alors, en profondeur, justement, en tant que femme ?
Alors,
sans rentrer... Parce que c'est très unique, forcément, à chaque personne, même que tu vas coacher. Donc, mais juste, est-ce qu'il y a effectivement... ce que tu disais tout à l'heure, hein, s'écouter, prendre soin de son corps, avoir des moments pour soi dans la journée. Moi, je pense, par exemple, est-ce que doit y avoir une forme de routine dans ritualiser pour nous seuls en tant que femmes. Voilà, comment tu viendrais bouger ces croyances, toi ?
Alors, il y a plusieurs volets. Donc déjà, ce qu'on a abordé sur la connaissance de ton cycle, c'est hyper important parce que tu te réappropries quelque chose qui nous a été entre guillemets enlevé. Donc du coup, plus ça va, plus tu fais confiance à ton corps et plus tu t'aperçois qu'il te soutient. Donc déjà, tu es sur une base solide et t'apportes autre chose à l'humanité avec qui tu es. Ensuite, il y a clairement, moi quand je travaille avec des gens, on va aussi beaucoup travailler sur tout ce qui est blessures d'enfance et croyances limitantes, pour le coup. Donc on va les chercher en hypnose. Moi, j'utilise beaucoup ces vecteurs-là pour aller nettoyer, en fait, toutes ces blessures, ces trucs qui sont là et qui nous emprisonnent, donc, concrètement, dans un... dans des limitations qui nous empêchent de briller vraiment qui on est. Et après, c'est des petits pas, en fait. C'est vraiment là ce qui me vient et qui est extrêmement puissant, c'est écouter comment vous vous parlez intérieurement. Écoutez cette voix intérieure qui vous parle, en fait. Parce que je crois que c'est Anaïs Nin qui a dit ça, c'est il n'y a pas plus pire dent à serrer qu'une femme qui parle d'elle-même, en fait. Et c'est vrai qu'on est extrêmement critique envers nous-mêmes. Et jamais on parlerait à qui que ce soit de la manière dont on se parle à nous-mêmes, en fait. Donc c'est vraiment...
Parfois, on le fait justement, et ça devient très, très tendu. Moi, je sais que j'ai des exemples de femmes, en effet, qui vont se critiquer, elles, qui vont dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai de conne de faire ci, et puis de faire ça, pardon, pour le juron. » Et puis qui va dire la même chose de quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, on a vraiment ce désamour de soi, en fait. On en revient toujours au cœur du
sujet. Bah, c'est, en fait, on pourrait aller très loin dans cette idée où c'est on crée autour de nous par rapport à qui on est à l'intérieur. Si vous passez votre temps à vous insulter, il y a peu de chances que vous attiriez à vous des gens qui sont hyper bienveillants, quoi. Et que vous soyez hyper bienveillants avec les autres. Donc, c'est aussi prendre conscience. Pour moi, c'est vraiment un levier incroyable. C'est prenez conscience de cette voix à l'intérieur de vous. Et après, alors le travers de base, en général, c'est « Oh là là, je me suis traité de conne, quelle conne !» Vraiment, il y a un truc qui se joue. En fait, on arrive à se flageller parce qu'on se parle mal. Donc ça, c'est le début, en général. Et c'est vraiment de prendre le temps et de se reprendre avec bienveillance et de se dire « Ok, bah là, je l'ai vu. » Je l'ai vu, c'est cool. Déjà, je m'en suis aperçue. Et puis, petit à petit, de se reprendre de plus en plus. Et après, quand vous êtes devant le miroir, typiquement, au lieu de scruter votre visage à la recherche de toutes les imperfections, de juste vous apprécier, d'apporter de la vraie bienveillance. Moi, un rituel, tu parlais de rituel, que je demande régulièrement à mes clientes de faire et que je trouve extrêmement puissant, c'est quand vous prenez votre douche, faites-le avec amour, quoi. Vous mettez votre crème sur le visage, qui est une chose qu'on fait quasiment tous les jours. Au lieu de vous l'étaler sur le visage de manière violente et inconsciente, posez-vous et prenez quelques minutes pour vous la poser sur le visage comme vous le poseriez à quelqu'un que vous aimez profondément, en fait. Et juste de créer ce lien avec vous-même de manière quotidienne, c'est ça qui est extrêmement transformateur. Parce que oui, il y a des choses à faire, il y a des rituels à faire, il y a... effectivement, moi, les pratiques que j'ai en hypnose, c'est extrêmement puissant aussi. On fait des travaux sur le mouvement, la libération émotionnelle par le corps et tout ça. C'est très puissant. Mais en fait, les petites choses que vous pouvez faire tous les jours, c'est là que ça va transformer le plus en profondeur votre vie et que surtout, ça va se pérenniser. C'est une transformation sur la durée. Donc, typiquement, oui, je commencerai par là. Écoutez cette voix et apprenez à vous offrir de l'amour. Petit à petit.
Génial. Et alors, donc, deuxième question, quel est le lien entre conscience de ses désirs et besoins en tant que femme et transformation de notre vie, et notamment en sexualité, puisque c'est quelque chose dont on avait parlé?
Ah là là, tu me dis ça, j'ai des frissons dans le ventre de partout. C'est ça. Voilà. Là, je vais essayer de remonter un peu la genèse. La sexualité dans nos sociétés est extrêmement dévoyée à plein de niveaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment en fait pris quelque chose qui est extrêmement sacré, de connexion corps à corps, cœur à cœur et même de connexion à soi en termes de masturbation, et on en a fait on y a appliqué le patriarcat, la masculinité souffrante avec une recherche d'objectifs concrètement, où en fait on est dans un rush, la comparaison. Ou la crise de l'autocritique. Donc combien de femmes m'ont dit ouais mais comment je fais l'amour, je pense juste à quelle position je peux prendre pour que mes seins ils soient dans la bonne position, quoi. Alors que concrètement c'est un des outils, la connexion sexuelle pour les femmes est un des outils transformateurs les plus puissants qui existent à mon sens. C'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie sexuelle est une énergie incroyable. Et plus vous allez vous connecter à ça en conscience, plus en fait elle va jouer avec vous. Et concrètement, vous pouvez utiliser tous les orgasmes que vous avez pour évoluer, en fait. C'est juste, là, ce serait un peu long à développer, mais... Donc, de cultiver votre désir, de cultiver le lien à son désir seul, parce que vraiment là j'insiste sur le fait que ça se commence seul, parce qu'en fait la société fait que l'autre a aussi des attentes et on est dans une logique où en fait on va vite s'oublier et vite passer à ce qu'on nous a appris et montré. En fait, de connecter avec votre désir seul. Alors, on peut parler de masturbation, et moi, j'engage vraiment les femmes à avoir des pratiques régulières de masturbation consciente, pour le coup. Mais ça peut être juste de consciemment vous toucher la peau et de sentir, de voir ce qui s'éveille en vous à ce moment-là, de danser le mouvement. Et pour le désir, est extrêmement intéressant, en fait, d'être dans votre corps. Et en fait, plus vous allez connecter à votre corps, plus vous allez connecter à cette énergie du désir, plus vous allez concrètement être puissante dans votre vie. C'est-à-dire que c'est pas pour rien si la sexualité des femmes a été castrée par l'Église, en fait. C'est parce que c'est un vrai moyen de leadership pour les femmes. Alors ça peut partir être tordu en disant ça, mais en fait, une femme qui va se reconnecter à la souveraineté de sa sexualité, à la souveraineté de son désir, elle est inattaquable. On peut pas la bouger, en fait, parce qu'elle sait, elle est ancrée dans le sol, elle est ancrée dans sa puissance, et elle sait ce qu'elle peut créer. Moi, aujourd'hui, quand je démarre des projets, j'ai toujours cette connexion à, si j'ai quelque chose qui m'arrive, on me propose quelque chose, je vais me connecter à mon corps, et en fait, je vais sentir si le désir est là ou pas. Ça devient une entité, ça devient quelque chose qui partage notre vie. Et je suis capable de dire, aujourd'hui, je peux plus me faire embarquer dans un projet qui m'appartient pas parce qu'en fait, je le sais. Intuitivement, je sais exactement où est-ce que je dois aller et si ça me convient ou pas. Et ça me permet d'être aussi en contact avec des idées que j'aurais peut-être pas trouvées toute seule parce que quand vous pratiquez régulièrement ce rapport à votre corps, ce rapport au désir et au plaisir, en fait, vous vous ouvrez à une autre vibration. C'est-à-dire que vous cultivez ça dans votre vie. Je sais pas si je suis très claire, là.
Si, si, et moi je vois vraiment quelque chose comme le désir sexuel n'est finalement que le reflet de nos désirs dans notre vie, avec toute la thématique du consentement qui vient s'ajouter à ce dont on parle, puisque au plus on est connecté à notre désir sexuel et au plus on sera aussi connecté à nos désirs dans notre vie, que ce soit nos désirs professionnels, nos désirs de relations, etc., avec un vrai consentement intérieur. Et combien de fois, en étant jeune notamment, on s'est retrouvé dans des situations où on sait pas si on est consentante ou pas. Mm-mm. C'est ce qu'ils appellent notamment la fameuse zone grise, hein, quand on est dans un rapport sexuel. Est-ce que j'étais vraiment consentante? Mais peut-être que je l'étais, ou enfin, en fait, je sais pas. Et le fait de pas savoir, c'est là qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur nous et dans notre vie, je pense. Et enfin, moi, en tout cas, quand on parle de ça, j'ai l'impression que ça fait beaucoup écho à ça, que finalement, dans la sexualité est le reflet de notre vie.
La sexualité est complètement le reflet de notre vie et notre manière d'être en lien avec la vie, même au-delà de ça. C'est-à-dire que soit vous êtes dans une logique de, par exemple, quelqu'un qui ressent pas de plaisir et anesthésié dans son corps, pour tout un tas de raisons derrière, hein, parce qu'il y a des traumas derrière, il y a des expériences douloureuses, il y a tout un tas de choses. Donc en fait, le corps a mis en place quelque chose pour protéger la personne, voilà, mais c'est de l'anesthésie totale. Et une femme qui n'a pas de sensation ou de plaisir plus que ça dans la sexualité, elle n'a pas de sensation ou de plaisir plus que ça dans la vie, en fait. Et effectivement, elle va pouvoir se faire balader à droite à gauche parce qu'en fait, elle ne sait pas. Et en fait, en nous enlevant ce lien à la sexualité de la sacrée, on nous a enlevé le lien à notre souveraineté, en fait. Et quand vous êtes en contact avec votre corps, en contact avec votre désir, comme tu dis, en fait, tu sais si tu as envie ou pas. Et tu sais, tu es capable de dire non, en fait, parce que ben là, j'ai pas envie, donc j'ai pas envie, quoi. C'est pas peut-être, ou je sais pas, ou... Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je voudrais tellement transmettre aux jeunes filles pour qu'elles aient pas à passer par toutes ces étapes un peu pourries qu'on a eu aussi. Et de se dire, non, on peut faire des générations de femmes à venir qui seront souveraines dans leur corps, dans leur désir. Et en plus, au-delà d'un point de vue juste personnel, on apporte tellement plus à la société, aux gens qui nous entourent et à notre couple.
Attends, je mets juste pause. Et selon toi, comment l'énergie yin se manifeste dans la sexualité ?
Alors l'énergie yin, c'est une énergie de magnétisation, c'est-à-dire que le yang est une énergie pénétrante qui va aller chercher, qui va aller vers l'avant, alors que l'énergie yin, on magnétise à soi. C'est vraiment ce principe de l'aimant en fait. L'énergie yin, elle est centrée dans votre utérus, et en fait vous connectez à ça, et en fait vous attirez à vous. Donc en fait on reçoit, on est le réceptacle de. Et dans la sexualité, l'énergie yin, elle peut se manifester. On n'est jamais yin ou yang, c'est-à-dire qu'une femme, elle a les deux énergies en elle et elle peut jouer avec. Mais l'énergie féminine dans la sexualité, elle va être vraiment dans attirer à et recevoir. C'est une polarité où on va magnétiser notre partenaire vers nous et on va s'abandonner, entre guillemets. Alors, ça n'a rien à voir avec une forme de passivité qui est souvent très mal perçue auprès des femmes. Je ne suis pas une étoile de mer. C'est pas du tout la question, en fait. C'est juste, est-ce que vous êtes vraiment prête à recevoir le masculin dans votre corps, en fait, et à le faire bouger différemment. Donc, dans le cadre de la sexualité, ce serait vraiment cette idée d'être en réception. Et après, il y a aussi tout le paramètre créativité en fait qui vient parce qu'on a souvent cette idée que l'énergie yin, elle est passive et elle fait rien, alors que pas du tout. Ça peut être très créatif et très joueur. Donc c'est vraiment intéressant de se connecter à ce à quoi ça ressemble pour vous, au-delà de juste les archétypes qu'on peut lire dans les livres.
Super. Et quelle est l'influence de l'orgasme sur le corps et dans notre vie ?
Ça change tout. Alors, d'un point de vue physiologique, l'orgasme, c'est une décharge d'hormones variées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, ça a des effets positifs sur votre digestion, sur votre cerveau, sur votre corps, sur votre circulation sanguine, sur absolument tout. En fait. La gestion du stress, ça va permettre à vos hormones de décharger le stress. Enfin, d'un point de vue physiologique, ça change tout, vraiment. Un orgasme par jour régulera votre digestion. Enfin, concrètement, c'est assez magique. D'ailleurs, la médecine chinoise le savait bien, hein, et les Indiens aussi. Hein, la sexualité, ça faisait partie de la prévention et de la médecine, alors que chez nous, c'est tabou. Mais en fait, c'est majeur dans la santé. Donc, il y a ce point de vue-là. Et d'un point de vue énergétique, donc ça, on a déjà abordé, il y a vraiment ce lien à la souveraineté qui se crée à la connaissance de son corps et de son désir. Donc, vous savez où vous avez des directions claires. Et vous pouvez générer de l'énergie autour de ça. Et il y a un autre paramètre qui est un point de vue un peu de sorcière. Mais il y a ce qu'on appelle le sex magic. Et c'est vraiment cette capacité à manifester dans vos vies vos désirs au travers de votre énergie sexuelle. Donc là, je vais faire court. Mais si ça intéresse des personnes, j'ai une pratique enregistrée que j'offre de temps en temps. Donc, faut me contacter et je ferai. Mais en fait, en gros, c'est vous connecter à l'énergie sexuelle, vous avez une vision et en fait, après, vous faites monter votre énergie dans vos différents chakras pour en fait envoyer cette demande à l'univers au travers de votre chakra couronne. Et en fait, c'est un peu comme si d'habitude vous demandiez avec une petite note et là, d'un seul coup, vous avez un mégaphone surpuissant, en fait. Et en fait, l'énergie est. Enfin, j'en parle en connaissance de cause, c'est extrêmement puissant. Vous pouvez vraiment changer votre vie avec vos orgasmes, en fait.
Ça, ce sera la phrase phare de l'épisode. Vous pouvez changer votre vie grâce aux orgasmes.
Ah, mais complètement. Et c'est vraiment une énergie puissante et qu'il faut nettoyer, en fait, parce qu'elle est tellement dévoyée dans notre société, alors que c'est sain, c'est beau et c'est transformateur.
Puis souvent, on force, enfin, je sais que chez un homme, il y a, bon, chez un homme ou chez une femme d'ailleurs, hein, enfin, en fait, c'est commun à notre société, mais où on a vraiment cette recherche à tout prix de l'orgasme dans le rapport sexuel. Et s'il n'y a pas eu d'orgasme, eh ben, c'est que le rapport n'était pas à la hauteur des attentes. Alors que, bon, pour moi, le rapport sexuel, c'est d'abord une connexion d'âme. Donc, il y ait orgasme ou pas, finalement. Et on met tellement de pression, finalement, sur l'orgasme dans le rapport sexuel qu'on vient enlever, en fait, sa fonction première. Et puis, surtout, on ne lui permet pas de se réaliser.
Ouais, complètement. Et en plus, on a une vision masculine de l'orgasme. En fait, on envisage un orgasme qui est une espèce d'explosion interne, alors qu'en fait, il y en a une multitude. Et en fait, vous pouvez avoir des orgasmes énergétiques, vous pouvez avoir des orgasmes, des sensations de décharge électrique qui vont parcourir tout votre corps, ne serait-ce qu'avec une stimulation à certains endroits de votre corps. Là, j'ai la main sur ma nuque parce que moi, c'est un endroit sensible. Mais, donc, c'est vraiment, il n'y a pas qu'une manière d'avoir du plaisir. Et en fait, plus vous allez apprécier être dans le chemin, être dans la pratique, être dans le moment, plus vous allez découvrir un panel incroyable d'orgasmes différents. Et de connexion à votre corps différent. Et ça, c'est incroyablement. Alors, déjà, c'est incroyablement satisfaisant, mais c'est incroyablement transformateur, en fait, parce que vous découvrez que votre corps a toute une symphonie à vous offrir. Donc, ça va même très, très loin. On nous apprend rien sur la sexualité à l'école, que dalle.
Oui, non, vraiment très peu. Et moi, je me souviendrai toujours de. Quand j'étais adolescente. Au collège, on avait eu une intervenante qui nous avait dit dans faire l'amour, il y a amour. En gros, faites attention à ce que ce soit bien votre amoureux. J'ai trouvé ça tellement moralisateur de l'église chrétienne où je me suis dit, mais non, le sexe, c'est la découverte de plein de choses au-delà de l'amour. Et même parfois dans certains courants religieux, sacrés, spirituels, on retrouve un peu cette croyance que il faut absolument que ce soit une personne avec qui on partage des choses très fortes. Les périodes où peut-être on va multiplier les rapports sexuels, on va effectivement délaisser parfois de l'énergie, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout arrêter et ne faire l'amour que avec son amoureux.
Non, complètement. Je suis très d'accord avec toi dans le sens où il y a beaucoup de pratiques spirituelles aujourd'hui qui sont extrêmement moralisatrices. Alors, et qu'en fait, pour moi, ce n'est pas ce que vous faites, c'est la conscience dans laquelle vous le faites. Parce que vous pouvez tout à fait avoir de multiples partenaires et être dans le respect et la souveraineté à tout moment. Pour une femme, pour moi, c'est vraiment, si j'avais un message à transmettre, c'est ça, c'est contacter votre souveraineté, en fait. Parce que quand on est souveraine dans un rapport sexuel, vous pouvez même vous retrouver dans des... Je sais pas, vous êtes peut-être attiré par le sadomasochisme et en fait la soumission, mais en fait vous pouvez être dans une position de soumission tout en étant dans votre pleine souveraineté en fait. C'est pas obligé d'être sale et dégradant. Il y a vraiment tout un, c'est dans l'intention qu'on met et dans la conscience qu'on met dans l'acte qui a une importance. C'est pas dans l'acte en lui-même parce que ça peut être très beau quelle que soit la pratique qu'on choisit. Si on est souverain, alors dans souveraineté il y a consentement, mais il y a aussi puissance. C'est-à-dire que c'est être consentante d'une situation, mais être aussi créatrice de cette situation. Donc vous participez à et vous participez d'eux. Et que, effectivement, vous pouvez avoir plein de partenaires à être conscient. Alors, il y a des choses qu'il faut savoir, comme une femme qui fait l'amour avec un homme, elle va porter en elle l'énergie de l'homme pendant un temps. Donc, c'est souvent pour ça qu'après avoir fait l'amour, on est hyper attaché. Donc, ça, c'est toujours à prendre avec un peu de distance, parce que c'est un processus hormonal et physiologique, donc il faut le savoir. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de mauvaise pratique sexuelle, en fait. C'est juste mettre de la conscience et de la souveraineté dans tout ce qu'on fait. Et effectivement, quand on est jeune, je pense que c'est aussi une phase d'exploration et de découverte qui est hyper importante, qui n'est pas du tout valorisée dans notre société et qui se fait souvent dans la honte et qui génère tout un tas de blessures derrière, en fait. Mais vous pourriez tout à fait... Il y a des cultures où les rapports entre les adolescents de manière libre sont tout à fait tolérés en fait et valorisés parce que c'est une période de découverte de son corps, de son plaisir, de son désir et de découverte saine.
Alors Caroline, une avant-dernière question. Donc, en quoi la reconnexion à l'énergie féminine peut-elle améliorer notre monde ?
Parce qu'elle peut tout changer. Pour faire succinct, alors c'est un secret pour personne qu'on évolue dans un monde qui a été construit sur une énergie masculine souffrante, et je pèse le mot de souffrant parce qu'on a si souvent des raccourcis où l'énergie masculine c'est mal et l'énergie féminine c'est très bien. C'est très binaire comme vision des choses, et en fait on a tous des parts souffrantes et des parts entre guillemets divines ou de lumière, vous l'appelez comme vous voulez, mais la connexion à notre énergie féminine, déjà d'un point de vue très simple, quand vous êtes connecté à votre corps, vous êtes connecté à votre cycle, vous êtes connecté à la Terre. Du coup, vous ne pouvez pas, en fait, détruire votre milieu et être inconscient à ce niveau-là, parce qu'en fait, le lien, il devient réel, palpable et physiologique. Donc ça, déjà, c'est un début. Ensuite, l'énergie féminine, elle est extrêmement créative et elle prend soin de... Et on a besoin de ça aujourd'hui, en fait, de gens qui sortent un peu de cadre pour créer notre futur et prendre soin de la planète qui nous entoure. Donc, pour moi, c'est avant tout là où ça va changer le monde, en fait, dans l'action, c'est que, en fait, plus de féminin, c'est plus de prendre soin, c'est plus de présence. Et c'est là où c'est intéressant. Après, on a besoin du masculin pour mettre en action. C'est vraiment... Pour moi, en fait, on entend souvent aujourd'hui, l'avenir sera féminin, on ne sera pas... pour moi, l'avenir, il est constitué des deux, en fait. Il est grand temps qu'on se réconcilie ces deux énergies, masculine et féminine, et qu'on fasse des belles choses ensemble, en tant que les femmes aussi. Donc, c'est en ça où moi, je travaille plus dans le développement et la danse des polarités, donc dans une... juste pousser l'énergie féminine. Elle a besoin. C'est hyper important qu'on ait ces discussions-là aujourd'hui parce qu'on sort de 3 ou 4 000 ans de pression et qu'il faut que ça sorte et que ça circule. Mais il faut bien prendre conscience que si on a juste la volonté de pousser l'énergie féminine, on va juste rentrer dans d'autres déséquilibres. Donc c'est vraiment, ça peut changer le monde, mais ça changera le monde de belle manière si on apprend à danser ensemble.
Oui, très important. En fait, ne pas enlever au masculin sa dignité. Je crois, qui est très importante. Je retrouve parfois la moquerie, le mépris envers les hommes, et je comprends la souffrance qu'il y a derrière, je l'ai moi-même vécu, on l'a toutes vécu, mais à partir du moment où on enlève la dignité du masculin, on va rien construire. Rien
absolument.
Du tout.
Et puis c'est notre responsabilité de soigner ses parts blessées de nous-mêmes, en fait. Et c'est pas en attaquant les hommes. D'ailleurs, juste pour... masculin et féminin et homme et femme, c'est des choses différentes. C'est pas,
oui,
voilà.
C'est pas genré. Oui, oui. Voilà, ça, je l'ai expliqué dans d'autres podcasts. Je ferai une petite introduction par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est indépendant du genre. C'est des énergies qu'on a tous. Donc, que tu sois hétérosexuel, homosexuel, bi, peu importe, on l'a toutes et tous.
C'est ça, on l'a toutes et tous. Et il faut qu'on apprenne tous à danser. Et typiquement, des femmes qui vont être dans ce rapport-là aux hommes, c'est des femmes qui sont dans un corps de souffrance, en fait. On est dans la souffrance à ce niveau-là et du coup, on va renvoyer la souffrance à l'autre. Alors que c'est pour ça que moi, je suis vraiment partisane du travail interne parce qu'en fait, en travaillant sur nous, on travaille sur le monde. Et en fait, on travaille sur notre rapport au monde. Et c'est notre responsabilité en tant que femme d'aller soigner ses parts blessées de nous-mêmes. En fait, il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Et quand bien même, on aurait toutes ces demandes, peut-être ça peut faire du bien aux gens, des excuses publiques, des choses, j'en sais rien, mais en fait, ça ne viendra pas vous guérir. Parce que ça doit venir de l'intérieur et c'est aussi en ça que la connexion à l'énergie féminine, elle change le monde, en fait, c'est qu'on change notre rapport au monde, notre façon d'être. Et que, moi, je le vois même dans ma relation de couple aujourd'hui, où en fait, plus j'ai travaillé sur cette polarité féminine, plus je permets à mon homme de travailler inconsciemment ou consciemment sa polarité masculine, et plus on rentre dans une danse qui est hyper respectueuse de l'autre et admirative de l'autre, en fait. D'être dans le conflit et la comparaison ou le dénigrement permanent.
C'est en ça que je dis que l'énergie féminine change le monde, c'est-à-dire qu'elle change le monde à tout niveau. C'est vous connectez à vous-même, vous connectez à votre puissance, vous interagissez différemment autour de vous, vous créez des projets qui sont différents, vous portez une énergie différente. Et en fait, ça fait des irradiations et des effets qui s'étendent vers le monde, en fait, différemment. Donc, oui. Concrètement, connecter à votre énergie féminine change le monde, change votre monde et par effet, change le monde.
Génial. Et alors, dernière question que j'aime beaucoup poser en fin de podcast. Penses-tu que nous sommes illimités et spécialement pour toi, que les femmes sont illimitées?
Absolument. absolument. C'est rigolo parce que c'est vraiment une vision que j'ai qui n'est pas forcément partagée par beaucoup de gens dans mon entourage, mais... Pour moi, en tant qu'être humain, on est avant tout des êtres. Alors, on est des êtres physiologiques dans la matière. Il y a une inertie, il y a tout ce qu'on veut, mais on est des êtres énergétiques. Et en fait, je pense que quand on connecte à sa souveraineté et sa puissance, il n'y a pas de limite. Là, je vais parler d'un sujet assez intime, mais en fait, c'est ce qui me vient, donc je vais le partager. J'ai accouché de mes deux enfants à domicile, et quand ma fille est née. Donc j'ai accouché dans une pièce, toute seule. J'avais ma sage-femme qui arrivait très peu de temps avant l'accouchement. Donc j'ai fait vraiment tout ce travail-là toute seule. Et en fait, le fait de faire naître un enfant au travers de soi, en conscience et entre guillemets, d'avoir la conscience que c'est ton corps qui sait. Cette puissance-là féminine, elle est là. Ça m'a donné des ailes, mais dans des proportions où je sais que je suis capable de tout faire, en fait. Si je me mets dans un projet, je peux tout faire. Je peux tout créer, je peux tout fabriquer. il n'y a pas de limite. Et en fait, plus j'avance là-dedans, plus j'ouvre les portes de cette énergie de désir, de cette énergie sexuelle, de cette connexion à son corps, plus je m'aperçois que mon monde intérieur et mon monde extérieur s'expand dans des proportions qui sont juste presque magiques. On en discutait avant, mais des fois j'ai l'impression de vivre dans un film, tellement c'est puissant en fait. Mais oui, je pense qu'on est complètement illimité et que la seule limite qu'on a, c'est tous ces trucs qu'on porte sur nous qui vont se débarrasser en fait.
Caroline...
Excuse-moi. Oui, pardon.
Je disais juste quand Caroline parle de puissance, c'est que beaucoup de synchronicité s'active dans sa vie et c'est en lien direct justement avec ce pouvoir retrouvé.
C'est absolument ça en fait. Et en fait, quand on fait le mélange de croyances limitantes, tu vois, par rapport à ton podcast et vraiment aller voir ce qui nous limite, en fait, on a déjà tout à l'intérieur de nous. Moi, cette notion d'aller chercher son meilleur soi, je suis un peu dubitatif parce qu'en fait, je pense que notre meilleur noix, il est déjà dedans. Et qu'en fait, on a juste tout un tas de couches sociétales, éducatives, de blessures qui sont là. Et qu'en fait, le job, c'est d'enlever ça pour laisser émerger la beauté qu'on a à l'intérieur de nous, la puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Donc oui, on est complètement illimité, carrément.
Super. Caroline, merci beaucoup. Merci infiniment. J'espère que voilà, on délivre de beaux messages futurs pour retrouver notre souveraineté féminine et notre place et d'être en accord avec nos désirs, ce qui nous correspond, tout en respectant les autres.
Absolument, ouais. S'il y a un message à faire passer, c'est ça. Aimez-vous pour pouvoir aimer les autres correctement.
Génial, merci Caro.
Merci, avec plaisir.
Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. Personnellement, ce sont surtout les notions de combat et de challenge qui m'ont marquée. En effet, elles impliquent une défiance à notre personnalité alors que nous pourrions avancer en douceur, comme le dit très bien Camille. Cela dit, bon, pour revenir à l'exemple que j'ai cité concernant les orpailleurs en Amazonie, il me paraît malgré tout difficile d'instaurer un dialogue avec eux, puisque nous risquons notre vie, en fait, rien qu'en les approchant. Donc, quelle stratégie pourrait s'offrir à nous ? Je me pose la question, et je suis avide de suggestions. En tout cas, vous comprenez pourquoi je change de saison à la suite de cet épisode, puisque cela va modifier mes questions pour les prochains interviews. N'hésitez pas à me partager vos retours sur vos remises en question, cela m'intéresse grandement. Merci beaucoup, et à bientôt.